Vous allez vous mettre là-bas. Le thème de votre intervention, c'est le marché européen du CO2 et la compétitivité industrielle. Faut-il prévoir un mécanisme d'ajustement aux frontières? Vous allez nous expliquer tout ça clairement, parce qu'un mécanisme d'ajustement aux frontières, il faut nous expliquer ce que ça veut dire.
Absolument. Alors, d'abord, de manière quelques propos introductifs, puisqu'on est dans une séance sur la finance et le développement durable. Je voudrais d'abord caractériser certainement partiellement le développement durable en disant que c'est le moyen d'inscrire les contraintes environnementales dans les routines des mécanismes économiques. C'est ça le but du développement durable, de façon à transformer de manière avec ampleur le rapport de l'économie avec son fonctionnement physique, c'est-à-dire les consommations de matières premières, les émissions de déchets, les émissions de rejets divers, de manière à rendre compatible de façon durable la coexistence entre l'économie humaine et une planète en bon état. Mais l'enjeu majeur du développement durable, c'est bien d'inscrire ce que je peux appeler la reproduction de l'environnement dans les mécanismes économiques de façon aussi routinière que le prix de la baguette de pain que vous allez acheter tous les matins. Alors, si on est d'accord avec cette idée, où l'enjeu c'est quand même la physique, la base physique de l'économie, les dispositifs de marché de permis ou de marché de quotas, peu importe l'expression ici, c'est la même chose, paraissent pertinents chaque fois qu'on est capable de formuler une contrainte physique sur une base scientifique concernant l'environnement, et ensuite d'avoir une situation où cette contrainte peut être distribuée entre les agences économiques et re-répartis entre eux sans inconvénient du point de vue environnemental. C'est-à-dire qu'il y a équivalence environnementale tant que le plafond global est respecté. Tant qu'on est dans cette situation-là, les marchés de permis paraissent avoir une possibilité pertinente d'utilisation. Parce qu'ils associent le respect de la contrainte environnementale qui est le but ultime, mais rempli de manière économiquement efficace en minimisant les coûts si le dispositif est bien organisé. Évidemment, comme Roger l'a dit tout à l'heure, on peut aussi avoir une approche en taxe, c'est-à-dire une approche en prix, une approche en quantité, avec l'inconvénient qu'on est moins certain du résultat quantifié puisqu'il y a un facteur d'incertitude assez important. Le problème, donc, pour les économistes, se résume à de savoir sur quelle variable il vaut mieux faire porter l'incertitude ou à l'inverse, sur quelle variable il est préférable d'avoir la certitude de réalisation. Bon, je n'entrerai pas dans les arguments qui plaident pour l'un ou pour l'autre et sur les contextes qui le permettent. C'était juste pour introduire cette idée de marché de permis qui, intellectuellement, en articulant une contrainte physique qui reflète les objectifs environnementaux du développement durable et un mécanisme économique, finalement, c'est l'archétype du bon instrument pour le développement durable. Le climat, puisque ce dont je vais vous parler, c'est effectivement du marché européen de quotas et de la négociation internationale et du problème de l'ajustement aux frontières qui est envisagé. Le climat a des propriétés qui sont particulièrement difficiles du point de vue de l'organisation de l'activité humaine. D'abord, il n'y a pas de gouvernement mondial et donc il est très difficile de parvenir à l'équivalent d'une situation nationale où il y a un Parlement qui vote des lois et ensuite ces lois s'appliquent à tout le monde, même à ceux qui n'apprécient pas la loi. Au niveau international, il faut l'accord de tout le monde, y compris de ceux qu'on va appeler les plus pollueurs. Donc un régime international n'est viable que s'il est positif, y compris pour les plus pollueurs. Ensuite, on a un problème d'ineffectivité potentielle. Il n'y a pas de police, il n'y a pas d'armée mondiale pour faire respecter un accord. Il faut donc que l'accord repose sur la bonne volonté de l'ensemble des signataires. Là aussi, c'est assez compliqué à mettre en place et à rendre ça crédible. Regardons le problème de la France, par exemple. Bon, la France a officiellement adopté un objectif qu'on appelle le facteur 4 à l'horizon 2050, c'est-à-dire diviser par 4 les émissions du pays par rapport à ce qu'elles étaient en 1990. Ce qui veut dire peut-être un facteur 6 par rapport à ce qui se passerait si on ne faisait rien du tout sur ce champ. Bon, c'est un effort considérable, c'est un bouleversement complet de tous les usages de l'énergie en une quarantaine d'années. Bon, œuvre majeure qui devrait occuper plusieurs gouvernements de suite qui en feraient la priorité. Bien. Mais quel est l'impact climatique de tout cela? Eh bien, que la France fasse le facteur 4 ou qu'elle ne fasse rien du tout, cela fait moins de 1 ppm de moins ou de plus dans le bilan total du point de vue de la planète. C'est-à-dire qu'on passerait de 430 à 431 ppm, si on voulait, ou de 550 à 551 en 2050, du fait de l'action française. Donc la France pourrait être tentée de se dire, bah, pas pour moi, je ne vais pas m'embêter avec cette affaire, pour un ppm qui ne changera rien finalement sur le climat de la planète, et en particulier rien pour moi la France, je ne vais pas bénéficier de mon action. L'action, elle va bénéficier éventuellement, ça va être la goutte d'eau qui va se rejoindre les autres gouttes d'eau à l'échelle de la planète, et qui bénéficieront essentiellement à des gens très lointains. Donc pourquoi faire tout cela? Eh bien, le problème demeure et chacun va se poser la même question. Et donc, c'est pour ça qu'il est très difficile de mobiliser des pays pour aller faire une action significative au-delà des grands discours dans ce domaine. C'est ce qu'on peut appeler le présentisme aussi qui occupe nos sociétés, c'est-à-dire l'obsession du présent en oubliant à la fois le passé et, l'avenir très lointain. Et pourtant, malgré le fait que c'est un enjeu de très long terme, il y a une urgence, si on écoute le discours des climatologues. Car il y a une inertie considérable du système. Les émissions s'accumulent, 2-3 ppm par an. On en est à 430 en équivalent CO2 aujourd'hui. Vous avez vu qu'un des graphes présentés par Roger, il faudrait qu'on se stabilise à 450 si on veut avoir une espérance moyenne de ne pas dépasser les 2 degrés d'augmentation de température. Mais avec la possibilité, même à 450 ppm, de parvenir à plus 4 degrés. Et plus 4 degrés, c'est vraiment des bouleversements importants. Donc, on est déjà dans l'aventure climatique aujourd'hui. On ne peut plus l'éviter. La question, c'est dans quel degré, quelle probabilité on prend ce risque. Donc, si on veut vraiment limiter ce risque-là, le rapport Stern, les rapports du GIEC nous disent on a 10 ans. 10 ans à l'échelle de la planète pour atteindre un pic des émissions et commencer une décroissance assez rapide. C'est-à-dire passer du gros, du plus 3% par an à du moins 3% ou moins 2,5% par an dans les émissions à partir de 2020. Si on ne fait pas ça, eh bien, on est embarqué dans une autre aventure où on dépasse. Bon. Alors, le simple fait d'annoncer ces exigences vous amènerait spontanément à dire « mais ce n'est pas possible bon. ». Ben, si on ne le fait pas, c'est l'aventure climatique. Voilà les termes du challenge aujourd'hui. Et pour reprendre une expression de Pachauri, le président du GIEC, je crois qu'il est vrai qu'on a en gros perdu 15 années. On aurait engagé une action extrêmement rapide dès les années 90. On n'en serait pas là aujourd'hui. On avait peut-être 30 ans, en gros, pour régler le problème de manière assez tranquille. Et puis, on en a perdu 20 et il nous en reste 10. Ce qui rend évidemment le problème à la fois très difficile à traiter politiquement, mais dans l'ensemble des sociétés. Je ne sais pas ce qui va se passer, on en est au veille des négociations, donc ce n'est pas moi qui vais pouvoir définir si nous sommes capables de faire tout cela. Alors, c'est le contexte du marché européen. Ce marché s'articule à ce qui a été fait à Kyoto. Kyoto, c'est pour la période 2008-2012, et comme cela a été rappelé, les États industrialisés ont pris des engagements quantifiés, juridiquement contraignants, mais de réduction des émissions, mais assortis de la possibilité d'échanger entre eux et donc d'organiser un marché du carbone. Sur cette base-là, l'Europe a voulu s'entraîner à jouer à cette nouvelle forme d'action qui est l'échange de quotas de CO2 et a mis en place dès 2005 pour ces secteurs industriels grands émetteurs, un dispositif associant un plafonnement des émissions et la possibilité pour les entreprises qui recevaient des allocations de procéder à leurs échanges, donc de donner naissance à un marché du CO2. Il y a eu deux phases distinguées par l'Europe. La première phase, 2005-2007, une phase expérimentale, qui ne correspondait pas à la période de Kyoto, donc qui concernait que les Européens entre eux, et qui, en gros, devait permettre de mettre en place les institutions, parce qu'il faut mesurer, il y a des registres, il faut déclarer, il y a des tas de procédures, enfin bon, tout ça doit être mis en place, et puis que les opérateurs commencent à se familiariser. Et puis, il y aura la période 2008-2012, dans laquelle on vient d'entrer, enfin depuis maintenant presque un an, qui correspond à la période de Kyoto, donc celle des engagements vraiment internationaux. Alors, comment a-t-on organisé les choses en 2005-2012? Il y avait une directive européenne, donc c'est un marché européen, mais au-delà des grands principes, comme celui de la gratuité de l'allocation des permis aux entreprises pour 95% de l'allocation au minimum pour cette première phase, et l'idée qu'il y avait aussi étanchéité entre la phase 1 et la phase 2, c'est-à-dire que les permis délivrés sur 2005-2007 n'auraient plus aucune valeur, ne pourraient pas être utilisés pour la période 2008-2012. Au-delà de ces deux éléments-là, plus le choix des secteurs concernés, c'est-à-dire l'acier, le ciment, la production électrique, le verre, la pâte à papier, essentiellement, et les grandes installations de combustion qu'il peut y avoir dans d'autres secteurs. Une fois ceci fixé, l'essentiel des autres choix ont été renvoyés aux États nationaux, aux États membres. C'est notamment eux qui fixaient les plafonds nationaux sur ces secteurs, qui définissaient la méthode de répartition aux entreprises, qui définissait les règles pour ce qu'on appelait les nouveaux entrants, les nouvelles installations, comment elles accédaient ou pas au quota, et qu'est-ce qui se passait en cas de fermeture d'installation. Est-ce que les permis étaient perdus ou est-ce qu'ils étaient gardés pour l'ensemble de la période? Bon. Ces règles-là ont encore, en gros, fonctionné dans la deuxième période. Je noterai simplement sur la mise en place de cela que, dans la mesure où le secteur électrique en Europe n'est pas exposé à la concurrence internationale, tous les pays ont fait peser l'essentiel de la contrainte sur le secteur électrique et ont été très généreux, disons, avec les secteurs industriels qui participent aux échanges internationaux, c'est-à-dire acier, ciment, comme je l'indiquais. Les leçons de la première phase, c'est que les pays étant mis en une sorte de compétition dans la générosité à leurs propres industries, ont tous fait, à l'exception des Anglais, de la surallocation. C'est-à-dire qu'ils ont été trop généreux dans l'allocation. Ils avaient tellement peur de nuire à l'industrie que, finalement, ils ont abouti à cette situation de surallocation qui, en moyenne, pour l'année 2006, était de 4%. Ce qui a donné lieu à une bizarrerie, si vous voulez, du marché, qui a été bien commentée, notamment dans la presse. Le prix du quota, c'était pendant l'année 2005 et jusqu'à mars 2006 progressivement élevé jusqu'à un niveau de 30 euros. Et au moment où c'est révélé en avril 2006 qu'il y avait eu ce phénomène de surallocation, les prix se sont effondrés en deux jours de 30 à 15 et après ont commencé une lente descente, non pas aux enfers mais avoisinant les zéros. Puisque dès le début de l'année 2007, on était à moins de 1 euro la tonne de CO2. Bon, ça s'explique très bien. Les permis n'ayant pas de valeur durable au-delà de la fin de 2007, si toutes les entreprises disposaient des permis dont ils avaient besoin, ben, il n'y avait plus de marché, il n'y avait plus de valeur. Bon, donc ce n'est pas choquant, ce n'est pas un dysfonctionnement du marché, c'est simplement les conséquences des règles qui ont été choisies au départ. La seconde phase, la Commission a voulu reprendre les choses en main. C'est-à-dire elle a recentralisé de fait l'allocation initiale pour éviter ce phénomène de surallocation. Mais désormais, les quotas non utilisés sont utilisables dans les périodes ultérieures, ce qui change le mécanisme économique puisque il n'y a plus dans la formation des prix ce phénomène d'anticipation de la disparition de la valeur éventuelle. Des quotas non utilisés aujourd'hui pourront éventuellement servir dans une période où on attend un resserrement de la contrainte et donc une augmentation de la valeur. Ce qui amène évidemment à régulariser, à stabiliser le prix d'équilibre. Abordons maintenant les propositions faites par la Commission européenne en janvier 2008 et qui sont en cours de négociation finale, comme vous le savez, entre la Commission, le Parlement et le Conseil des ministres en ce moment sous la présidence française. Allongement de la période de 8 ans au lieu de 5 ans, c'est-à-dire que les engagements prochains seraient pour une période allant de 2013 à 2020. Une centralisation complète de l'allocation initiale. Un principe proposé, l'allocation aux enchères pour le secteur électrique, dès 2013, ça veut dire que les quotas devraient être payés complètement par tous les utilisateurs industriels, pour les compagnies électriques, dès 2013, et pour les autres, une mise en route progressive de cette mise aux enchères entre 2013 et 2020, de telle manière qu'en 2020, c'est l'objectif fiché, tous les secteurs industriels soient à 100% d'allocation aux enchères, donc payantes. Les gaz pris en compte sont étendus, pas seulement le CO2 comme dans les deux premières phases, mais tous les 6 gaz du protocole de Kyoto rentreraient dans le marché en fonction des capacités à mesurer de manière fiable les émissions et les transactions correspondantes. Un plafond resserré, moins 21% en moyenne par rapport à 2005. Voilà. Et évidemment, l'idée qu'il y aurait toujours une réserve à allouer de 5% pour les nouvelles installations industrielles. L'Europe n'a pas perdu de vue qu'elle souhaite attirer toujours de l'investissement international chez elle et elle reproduit cette idée d'une réserve pour les nouvelles installations. Alors, c'est dans ce contexte-là que le problème de l'ajustement aux frontières a été posé. Car vous imaginez bien que les secteurs industriels qui vont devoir, si on appliquait les règles que j'ai rappelées rapidement, acheter la totalité de leurs permis, vont subir une augmentation de coûts et que les entreprises sont inégalement en situation d'augmenter leurs prix pour répercuter cette augmentation de coûts sur leurs consommateurs. Les secteurs comme l'acier, le ciment, considèrent qu'ils n'auront pas la possibilité de répercuter, puisque le prix se forme de manière internationale, et qu'on est peut-être confronté à la situation où l'Europe irait seule jusqu'en 2020 avec des engagements comme ceux que j'ai indiqués. Dans la réunion du Conseil des ministres européens de mars 2007, l'Union européenne, enfin, ça a été validé par le Conseil des ministres, ont pris des engagements, ce qu'on appelle les 3-20, moins 20% d'émissions, amélioration de 20% de l'efficacité énergétique et 20% d'énergie renouvelable dans le bilan énergétique. Et ces engagements ont été pris de manière dite irrévocable, c'est-à-dire indépendamment du résultat d'une négociation internationale, qu'on souhaite par ailleurs faire aboutir, mais sans attendre le résultat de cette négociation qu'on attend à Copenhague en décembre 2009, mais qui pourra peut-être encore être poussée d'une année encore ou deux, ce dont on parle de plus en plus aujourd'hui. L'Europe a considéré qu'elle ne pouvait pas attendre, que ses industriels ne pouvaient pas attendre pour connaître les règles du jeu, de connaître la conclusion dans 2 ans encore de tout cela. Un problème a été soulevé par les partenaires industriels. Comment préserver la compétitivité industrielle avec un tel plan, où l'Europe prendrait seule des engagements, imputant un coût au carbone quand les autres compétiteurs, venant des autres régions, ne le feraient pas. Dans la proposition européenne, 2 possibilités ont été prévues, et sans se prononcer davantage. La première consiste à maintenir la gratuité de l'allocation pour les secteurs qu'on mettrait dans une liste des secteurs exposés à la compétition internationale et menacés de perdre leur compétitivité, allocation dans une proportion variable, non déterminée à l'avance, d'allocation gratuite, pouvant aller jusqu'à 100%, théoriquement pour certains. Et la deuxième option, c'est un dispositif d'ajustement aux frontières sur les importations dans l'Union européenne. Alors, on pourrait aborder cela en disant qu'il y a deux manières de voir. D'abord, les secteurs exposés, que pèsent-ils ? Eh bien, quand on regarde leur contribution à la valeur ajoutée, donc dans l'ensemble du PIB, si vous voulez, dans l'Union européenne, on s'aperçoit que la totalité de ce qu'ils représentent pèse peu, entre 1,5 et 2% de la valeur ajoutée. Donc, on pourrait se dire que c'est vraiment, finalement, négligeable. Mais le problème, c'est que c'est l'industrie lourde, c'est l'industrie de base, c'est l'industrie des commodités. Et la question, c'est de savoir si l'Europe souhaite ne plus avoir cette activité sur son territoire ou si elle souhaite demeurer une puissance industrielle pour ses matériaux de base. C'est la question qui nous est posée. Si on appliquait la mise aux enchères, ça reviendrait à une taxe du point de vue du mécanisme économique. Il faudrait payer. La seule chose, c'est que c'est une taxe qui serait un peu variable en fonction des cours du marché. Alors, les travaux de modélisation, et là j'ai pris l'exemple de l'acier, montrent l'incidence en termes de ce qu'on appelle les fuites de carbone qui résulteraient de la mesure. C'est-à-dire, fuites de carbone venant du fait que une part significative du marché européen serait prise par des importations moins chères que ce que pourraient produire les producteurs européens. Et d'autre part, la part de perte de marché du marché international auquel n'auraient plus accès les entrepreneurs européens puisqu'ils seraient trop coûteux par rapport à leurs concurrents. Mais on voit que, évidemment, dans ces travaux de modélisation, tout dépend de la valeur de la taxe ou du prix d'équilibre du marché. Là, ils ont pris dans les exemples des valeurs entre 10 et 170 euros la tonne de CO2. Non, c'est des dollars, en fait. Bon, c'est des dollars, c'est pas des euros. Et vous voyez que le taux minimum, c'est de l'ordre de 30% de fuite et qui peut aller, évidemment, jusqu'à, dans certains cas, 100%. Ça dépend des modèles. C'est-à-dire que quand on parle de fuite de carbone, c'est une mise en cause de la pertinence et de l'efficacité de l'action européenne, puisque ça veut dire que les réductions d'émissions qu'on obtiendrait chez nous seraient exactement compensées, enfin, compensées partiellement ou exactement, par une augmentation des émissions dans les autres pays, par substitution, par des techniques moins efficientes de ce qui se ferait en Europe. Donc ce n'est pas environnementalement très intelligent comme dispositif de s'imposer des coûts sans grand intérêt, finalement, sur le résultat environnemental. D'où l'idée de l'ajustement aux frontières, qui est un thème très compliqué du point de vue de la politique internationale. Et de mon point de vue, il y a deux stratégies d'échec à éviter. Choisir un ajustement aux frontières qui serait perçu comme un acte hostile de la part des autres pays au moment même où on cherche à négocier avec eux un accord multilatéral, parce qu'ils présenteraient cela comme une mesure protectionniste. L'Europe, comme d'habitude, et encore plus la France, comme d'habitude, demande des mesures protectionnistes, donc pas crédibles, et donc refus de coopérer dans le cadre d'un accord multilatéral. Donc ça serait le premier échec. Mais le deuxième que je voudrais souligner, c'est que si l'Europe s'engage de façon unilatérale, sans rien prévoir comme mécanisme d'ajustement, c'est une solution que je considère être aussi un échec, car ça, d'abord, c'est une solution autopunitive du point de vue des coûts économiques. Ça n'est pas très bénéficiaire pour l'environnement à cause des fuites de carbone. Autre aspect que moi je trouve très particulièrement gênant du point de vue de la négociation, c'est que ça incite les autres pays à rester à faire du free riding, c'est-à-dire à essayer d'exploiter au maximum cette situation de différentiel de compétitivité créée par l'engagement unilatéral de l'Europe. Et donc, comme c'est économiquement avantageux pour eux, ils n'ont pas intérêt à aller souscrire un engagement multilatéral sur le climat qui impliquerait qu'ils aussi supportent des coûts pour maîtriser leurs émissions. Donc l'objectif de l'ajustement aux frontières, il y en a des tas, mais je soulignerai juste le fait qu'il s'agit de trouver un système dans lequel le free riding soit moins intéressant pour les pays tiers, mais qui leur préserve néanmoins un avantage léger par rapport à la situation où l'Europe renoncerait à toute politique climatique. Ceci pour que devant l'OMC, aucun pays ne puisse dire qu'il est pénalisé par la mesure. Parce que le problème, c'est évidemment, nous avons souscrit à l'OMC, nous sommes attachés à une régulation multilatérale des règles du commerce, nous sommes donc tenus plus que d'autres à respecter ces règles, et ces règles font que, du point de vue des actions sur des importations, nous n'avons pas le droit de prendre des mesures discriminantes vis-à-vis des importations en tant que telles. Le traitement des importations doit être au moins aussi favorable que le traitement donné aux productions nationales. Donc il faut trouver un entre-deux, une situation qui demeure avantageuse pour les pays tiers qui voudraient exporter chez nous, mais qui soit beaucoup moins intéressante que si l'Europe prend des engagements unilatéraux sans compensation. Alors une proposition a été faite par des collègues de Cambridge en Angleterre que j'ai complété. Le périmètre, ben, c'est les matériaux de base, c'est donc pas toute l'économie, c'est pas la production de voitures, c'est pas la production de chaussures, ni de vêtements, ni de quoi que ce soit, c'est uniquement l'acier, le ciment, le raffinage pétrolier, le verre et l'aluminium, très impacté de manière indirecte par le marché du carbone, bien qu'il ne soit pas dedans pour le moment, du fait des coûts électriques. Bon, Je vais passer sur le détail technique parce que je vois que mon temps s'épuise très largement. Voilà. Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que la France avait été à l'origine, notamment sur la base de nos travaux, d'une proposition, mais beaucoup plus partielle, ne portant que sur les importations et pas sur les exportations. Or, la médaille a deux faces, et du point de vue des fuites de carbone. Si nous ne restituons pas des quotas au prorata des exportations, ça veut dire que le coût, qui va être le coût de référence en Europe, va faire perdre des parts de marché à l'international pour les producteurs européens, qui vont donc être substitués par des productions moins efficaces en carbone. Et donc, malgré l'impression générale que restituer des permis aux exportations, ça serait contraire à l'objectif environnemental, je maintiens qu'il serait tout à fait favorable à l'objectif environnemental. La France proposait aussi, dans un premier temps, que seule la part mise aux enchères fasse l'objet de compensation. Or, vous voyez, par exemple, actuellement, c'est 10%. Donc, on ferait un ajustement sur 10%. Mais le problème est que le surcoût pour les pays européens ne vient pas seulement de la part mise aux enchères, mais de la sévérité du plafond. Si le plafond est inférieur de 50% aux besoins, c'est ça la première source de surcoût. Et celle-là n'est pas prise en charge par le fait qu'il y a une partie gratuite et une partie aux enchères. Donc c'est une solution partielle et malgré cela, aucun pays européen n'a voulu soutenir actuellement cette proposition d'ajustement frontières, craignant des conflits à l'OMC. Tout le monde s'est donc rabattu vers l'idée de l'allocation gratuite. Et la surenchère du lobbying dans les jours actuels, c'est que tous les secteurs industriels relayés par les gouvernements de certains pays comme la Pologne, l'Allemagne et l'Italie demandent la gratuité dans la répartition qui va être décidée d'ici la fin de l'année. On en est là et je ne sais pas ce que sera finalement le choix final. Je dirais simplement, en conclusion, qu'il y a trois manières d'aborder cet ajustement aux frontières, soit comme une menace proférée envers les pays tiers pour qu'ils souscrivent un accord multilatéral. Et c'est un peu ce qu'avait commencé à faire le président Chirac et qu'a recommencé avec plus de force encore le président Sarkozy, en disant « ceux qui ne jouent pas le jeu de Kyoto doivent être sanctionnés sous la forme d'une taxe frontière bon. ». Deuxième manière, c'est de dire que c'est un complément indispensable de tout engagement unilatéral. Et puis la troisième manière, en pensant à ce qui a été choisi pour le régime fiscal de la TVA, c'est de dire qu'il est sans doute raisonnable qu'à l'échelle de la planète et pour plusieurs décennies, on ne fonctionnera pas avec un prix unique du carbone. Que l'Inde, le Burkina Faso et puis l'Europe et les États-Unis, on ne va pas avoir le même prix de référence pour le CO2 et que ça va être durable. Et peut-être que ce n'est pas si aberrant qu'il en soit ainsi pour organiser un rapprochement progressif des stratégies de développement. Dans ce cas-là, on devrait faire comme la TVA. On taxe les produits sur le marché domestique, on détaxe quand on est à l'exportation et puis les autres pays retaxent, chacun avec des taux différents. Et à ce moment-là, le système d'ajustement aux frontières serait incorporé dans l'accord multilatéral lui-même, fixant l'idée que chaque pays pourrait apprécier à quel niveau il veut fixer, enfin chaque pays ou chaque ensemble régional plutôt, voudrait apprécier quel niveau il veut fixer son niveau de prix pour le carbone et donc choisir un système d'ajustement en fonction. Le malheur est qu'on a utilisé la menace et qu'on a ruiné un peu actuellement la possibilité de faire de cet ajustement frontière la base d'un accord multilatéral intéressant. Je vous remercie.
Merci.